Il s'agit dans notre méditation d'être en contact avec ce qui est là, non pas avec ce qui n'est pas là, d'une manière claire et libre de confusion. Se peut que surgissent par moments dans notre méditation de nombreuses pensées. Il s'agit de ne pas les voir comme des défauts, comme des empêchements, mais comme une expérience qui surgit dans l'instant et qu'il s'agit d'intégrer à la pratique. Il est un peu plus difficile d'intégrer les pensées à la pratique. Elles sont plus dynamiques, elles sont moins franches qu'une sensation corporelle. L'audition d'un son n'étant que l'audition d'un son assez clairement, alors que la pensée peut nous embarquer vers le passé, le futur, nous faire croire des choses qui ne sont pas là. Ce qui n'est pas la caractéristique des perceptions sensorielles qui, elles, sont exactement ce qu'elles sont. Lorsque des pensées récurrentes surgissent, on a l'impression que ça tourne un peu toujours autour des mêmes thèmes. On peut aussi essayer de prendre conscience quelle est l'émotion qui est sous-jacente. Quelquefois c'est clair, quelquefois un tout petit peu moins clair. Il y a une émotion qui est là, qui est ce qui est exprimé par ces pensées récurrentes. Et si on essaye d'être simplement présent à ces pensées, sans prendre conscience de l'émotion, sans compte qu'on est toujours embarqué dans ses pensées, qu'il y a un degré de confusion. Mais lorsque l'on prend conscience de l'émotion sous-jacente, alors on se rend compte qu'on est vraiment présent avec ce qui nous habite en cet instant. Donc si des pensées récurrentes surgissent, essayez de découvrir s'il n'y a pas une émotion sous-jacente. Non pas par une analyse, en analysant le contenu des pensées, mais en ressentant qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je me ressens ou je me sens dans cette expérience. Légèrement irrité, frustré, froissé, inquiet, excité dans l'anticipation. Et à ce moment-là, essayez d'être en contact avec l'émotion. La dimension émotionnelle de notre existence est extrêmement riche. Donc essayez de prendre conscience de ce qu'est l'émotion, ce qu'est l'inquiétude, s'il y a de l'inquiétude. Qu'est-ce que l'impatience, s'il y a de l'impatience. On comprend assez rapidement de quoi il s'agit, l'impatience, l'inquiétude, mais lorsqu'on en fait l'expérience de manière plus intime, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est extrêmement intéressant de découvrir ce qu'est une émotion. Sans s'accrocher à cette notion de moi, de je, la prendre trop personnellement, parce que là, on voit l'émotion. Mais qu'est-ce que c'est que la tristesse? Qu'est-ce que c'est que l'inquiétude? Qu'est-ce que c'est que l'impatience? Cette qualité particulière qu'a la conscience dans cet instant-là. Ou la tristesse, ou le regret. On se rend compte aussi qu'il y a toujours attaché à l'émotion, il y a une certaine croyance, une certaine vision du monde à cet instant-là. Si je suis triste, rien ne semble intéressant. Lorsqu'on adhère à cette croyance, à ce moment-là, on s'enfonce dans la tristesse. Il peut y avoir par moments de l'inquiétude ou une légère angoisse. Et là, on a l'impression que tout est source de danger. Il n'y a aucune sécurité. C'est une croyance. Remarque bien que la situation ici est une situation de grande sécurité. Et pourtant, si on touche des zones d'angoisse, d'inquiétude, alors il y a cette croyance liée dans l'instant à l'expérience qu'il pourrait y avoir des dangers. Et lorsqu'on adhère à cette croyance, à ce moment-là, on nourrit l'inquiétude et on est enfermé dans l'émotion. Donc prenez conscience de cette croyance qui est lié à l'émotion, et aussi à ce qu'est l'émotion dans l'expérience même de l'inquiétude, dans l'expérience même de la tristesse, de l'ennui. C'est quoi l'ennui? L'impression qu'on sait bien ce que c'est, mais dans le fond, dans l'expérience elle-même. Lorsqu'on se met dans le contact avec l'émotion, sans a priori, en essayant de la toucher sans confusion, sans rien rajouter, ma tristesse, ma confusion. On découvre la nature de la tristesse, la nature de la confusion, la nature de l'inquiétude. Ce serait absurde de demander à l'inquiétude de ne pas être inquiète. Et la tristesse de ne pas être triste. Elles font leur boulot. Mais de découvrir ce que c'est que cette manière d'être dans la tristesse, cette manière d'être dans l'inquiétude, l'impatience. Et dans la mesure où on arrive à être en contact clair avec ces émotions, alors il y a dans cette émotion-là une grande richesse et une absence de contrainte. C'était la réaction, le préjugé par rapport à l'émotion qui nous lie, qui nous conditionne. Évidemment, c'est une chose très étonnante de trouver que dans la tristesse, il peut y avoir de la joie si on n'y adhère pas. La joie venant de la qualité de présence. Que la tristesse n'est pas un problème en soi. Et c'est bien cette richesse que peut nous apporter la méditation. Non pas dans une certaine habileté de changer toutes les émotions difficiles en émotions positives. Ce qui serait une tâche sans fin. Mais de découvrir que dans toute expérience, même si elle apparaît comme étant difficile, contraignante, triste, lorsqu'on est réellement en contact avec ceci, sans a priori, alors il y a liberté et plénitude. Mais pour ceci, il s'agit de ne pas réagir, résister, l'expérience de l'émotion, ni à raconter des histoires autour de l'émotion, même si cette histoire est extrêmement brève. C'est la tristesse ou ma tristesse comme quelque chose que je connais très bien et qui ferait partie de moi-même. Comme un trait de caractère. La solution à la tristesse se trouve dans la tristesse. La solution à l'impatience se trouve dans l'impatience. La solution à l'inquiétude se trouve dans l'inquiétude. Et ceci implique nécessairement une ouverture, le fait de bien vouloir ressentir cette émotion, de la découvrir plus profondément. Quand nous sommes à mi-chemin dans cette émotion, et pas complètement séparés, on l'éprouve mais pas complètement, pas profondément, alors elle est extrêmement contraignante. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'émotion, cherchez pas des émotions en vous disant peut-être qu'il me manque quelque chose. Donnons les indications d'une manière générale pour s'appliquer à tout le monde à différents moments. Ça ne veut pas dire qu'on doive rechercher les émotions. Maintenant, il n'est pas nécessaire que lorsque des pensées surgissent, elles soient toujours liées à des émotions, qu'elles soient toujours récurrentes. Se peut qu'il y ait des pensées qui surgissent dans l'assise et aussi dans les déplacements, dans le réfectoire. Des pensées, par exemple, des jugements sur les autres personnes, ou sur d'autres choses, sur la nourriture, sur le lieu, sur le temps. Quel que soit l'objet sur lequel portent ces pensées. Et pour les inclure dans la pratique de la méditation, où les pensées peuvent devenir un lieu de présence, devenir une manière d'être pleinement conscient, tout d'abord il faut réaliser que les pensées ne sont pas des objets concrets. Que les pensées n'ont aucune valeur objective. Prendre conscience de le crédit que nous donnons à ce que nous pensons. Combien nous croyons que ce que nous pensons est la vérité. Et ça, c'est important de l'inclure dans notre méditation parce que c'est un grand pouvoir libérateur. Pour imaginer dans le réfectoire qu'un jugement surgit au sujet d'une personne, quel que soit ce jugement, d'ailleurs positif ou négatif. Et si je crois que ceci est une réalité, une vérité, je lui donne une valeur objective. Alors ceci m'enferme, me conditionne, et je ne peux pas être présent à cette pensée puisqu'elle est une sorte d'objet. Elle existe comme une pierre, comme une tasse, comme une assiette. Elle a le même degré d'existence, de réalité. Donc prenez conscience de combien vous croyez ce que vous pensez ou combien on croit ce qu'on pense. Simplement dans cette prise de conscience, le crédit que je donne à ce que je pense, alors que ce ne sont que des croyances. Ceci relâche immensément la saisie que nous avons par rapport à ce que nous pensons. Donc le réfectoire est une bonne zone d'exploration pour ceci, mais évidemment toute autre situation également. Il ne s'agit pas de tourner en boucle, de réfléchir sur la pensée qui réfléchit sur la pensée, et finalement avoir l'impression de se perdre. Mais si une pensée surgit, prends l'exemple d'un jugement, d'une évaluation sur une personne ou sur le lieu ou toute autre chose, on peut revenir sur cette pensée et se rendre compte de la réalité que nous lui donnons. Pour moi, la meilleure manière de formuler ceci, c'est de réaliser combien nous croyons ce que nous pensons. Parce que si dès que les pensées surgissent, on les voit comme un défaut de la méditation, on veut revenir à autre chose comme les sensations corporelles, ce qui dans un deuxième temps peut être judicieux. Et alors on a toujours l'impression que les pensées resteront un obstacle et que jamais on comprendra ce qu'elles sont. Donc qu'il est bien tout d'abord de reconnaître que les pensées ne sont que des pensées. Et alors, à ce moment-là, si on veut revenir à un point d'ancrage plus simple, plus stable, ce sont les pensées qui nous font croire à la réalité du passé et du futur. Donc intégrer ceci, si les pensées sont récurrentes, essayer de prendre conscience de l'émotion qu'il y a derrière. Si des émotions surgissent, essayer d'être en plus grande intimité avec l'émotion. Conscience de ce qu'elle est réellement, ce qu'est la tristesse, l'inquiétude. Et si des pensées surgissent aussi, qui ne sont pas nécessairement liées à des émotions, prendre conscience qu'elles ne sont que des pensées et rien d'autre. De manière détendue, réceptive, disponible. Sans cultiver un objectif particulier, si ce n'est que d'être là avec ce qui surgit à chaque instant.